Lecture de la Bible. Nous lisons deux textes. Ésaïe 45, 14 à 17 et Philippiens 3, 7 à 14. Ésaïe, chapitre 45, versets 14 à 17. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant. C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni confus ni honteux jusque dans l'éternité. Amen. Le deuxième texte dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 14. C'est un texte un peu long, on va le suivre. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Quelle résonance a pris cette parole du livre du prophète Ésaïe dans la semaine qui vient de s'achever. Tu es un Dieu qui se cache. Mais où te caches-tu ? Dieu, voici un cri ou un soupir qui a pu être lâché à Manchester par les blessés, par les parents des victimes de l'horrible attentat. Et en Égypte, par les chrétiens coptes encore frappés d'un épouvantable massacre. En Méditerranée, par les migrants chassés de chez eux, devenus la proie de trafiquants en tout genre. Au Yémen, par des populations décimées par la guerre et le choléra. Tu es un Dieu qui se cache. Mais où te caches-tu ? C'est aussi un soupir ou un cri qu'on entend dans les couloirs des hôpitaux. qui étreint le cœur des proches de ceux qui sombrent dans les drogues ou dans les dépressions, qui traverse ceux qui sont plongés dans des conflits familiaux. Et chacun de vous peut allonger la liste. Parmi tous ceux qui ont lâché ce soupir ou ce cri, et parmi ceux qui l'ont entendu, il en est qui ont cessé de chercher ce Dieu qui est caché. Ils l'ont déclaré absent, parti sans laisser d'adresse. Parfois même, ils l'ont déclaré mort. Ils se sont lassés de ce Dieu caché. Ils ont laissé tomber. Ils se sont proclamés sans Dieu, athées, parfois en colère, avec virulence, mais le plus souvent, ils sont devenus indifférents. Le Dieu qui se cache, la question de Dieu est devenue pour eux sans intérêt. La question, la quête de Dieu. Mais il ne faudrait pas croire que les croyants soient immunisés contre cet abandon de la question, contre cette fatigue de la quête. C'est une tentation qui peut s'insinuer en nous, quand nous cherchons parfois un sens à ce que nous vivons et qui semble ne pas en avoir. Et s'il n'y avait pas de Dieu ? Qui peut vraiment échapper complètement à ce doute qui fait parfois très peur ? Et c'est vrai que nous voudrions un Dieu moins caché, un Dieu quand même plus évident, un Dieu qui se montrerait et qu'on n'aurait plus à chercher, un Dieu qui se révélerait de manière indiscutable, un Dieu qui descendrait du ciel jusqu'à nous en se faisant reconnaître par tous. On le voudrait, mais ça n'arrivera pas. Certains répondent alors qu'ils peuvent rencontrer Dieu, par exemple, dans la nature, devant les montagnes, devant l'océan, un coucher de soleil, ces panoramas et ces horizons qui nous font toucher à la sensation d'une grandeur immense. En même temps, la nature n'est pas toujours splendide, elle est parfois terriblement destructrice. D'autres rencontrent Dieu en écoutant de la musique, en se laissant emplir d'une inspiration qui n'est pas la leur et qui les emporte au-delà d'eux-mêmes. En même temps, toutes les musiques ne provoquent pas l'extase d'une rencontre avec Dieu. Et puis toujours, à un moment, la musique s'arrête. D'autres encore répondent en affirmant que Dieu a parlé et que c'est très clair. Il leur a parlé pour leur révéler la vérité. Et là, c'est radical. Il n'y a alors plus de doute et Dieu n'est plus caché. Il suffit de se tenir à la règle de vérité qui trace la séparation entre les purs et les impurs, entre les croyants et les impies. De tout temps et dans toute religion, cette réponse a séduit par sa simplicité, par l'assurance qu'elle donne d'être du bon côté de la ligne de séparation, et par la permission qu'on peut y entendre de s'en prendre au nom de Dieu à ceux qui sont de l'autre côté. Mais dans le même temps, la certitude de détenir la vérité revient à avoir la certitude, la prétention de détenir Dieu lui-même et faire de lui ainsi un Dieu à disposition de ses propres idées ou idéaux. Alors certainement, il vaut mieux que Dieu soit caché, qu'il reste dans un horizon de questions et de quêtes pour ne pas être réduit à l'objet d'une ambition personnelle, à l'objet d'une possession humaine. Alors voyons ce que Paul en dit. Et comment la foi lui permet de tenir la question et la quête, de tenir malgré le doute, malgré le temps qui passe et malgré ce que les circonstances de la vie lui font vivre. Paul commence aussi de manière très radicale. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout cela comme de la boue, comme de l'ordure. Toutes ces choses qui ne valent plus rien, mais auxquelles Paul tenait tant, c'est tout ce qui faisait son identité de Saul, le pharisien assidu, le juif impeccable, tenant haut la loi et persécutant tous ceux qui ne partageaient pas son point de vue. Sauf que Saul, avec sa radicalité pharisienne, était devenu persécuteur des chrétiens, persécuteur du Christ. Et c'est en découvrant, en Jésus crucifié et ressuscité, le Christ de Dieu, qu'il rejette alors tout ce qui avait fait auparavant sa fierté. Mais alors, pourrait-on dire, Paul a-t-il échangé une radicalité contre une autre ? Tout ou rien ? Et on change tout pour rien ? Eh bien, oui et non, la réponse n'est pas si simple, comme souvent. Car ce qui fait de Paul un apôtre, un disciple, ce n'est pas de tenir la vérité dans sa main, c'est de courir vers elle. Il le dit, il s'élance, il court vers le Christ. J'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but. Et ce vers quoi Paul s'élance, c'est ce Christ crucifié et ressuscité. Folie et faiblesse que ce Christ crucifié, pour ceux qui veulent posséder Dieu en le confondant avec la loi, ou pour ceux qui veulent rejoindre Dieu par la force de leur raison. Paul s'élance, cette fois sans prétendre être parfait, sans prétendre pouvoir arriver au but par ses propres efforts. Ça, c'était son ancien discours, et c'est la pensée toujours des radicalisés de tous bords. Ce qui caractérise un croyant, c'est d'être en chemin vers le Dieu révélé par le crucifié qui sur la croix a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi es-tu caché ? Où es-tu caché ?» Et ce Christ, image de Dieu pour nous, c'est celui que les évangiles racontent comme étant sans cesse en marche à la rencontre des petits, des faibles, des malades, des impurs, dont tous s'éloignent, des pécheurs et des pécheresses que tous condamnent et excluent. Le Dieu qui se révèle à la croix n'est pas un Dieu à disposition des croyants. Dieu, caché dans le scandale, la folie, la faiblesse du crucifié, Dieu décale toujours les croyants en quête d'assurance et de certitude, pour les envoyer en quête de sa paradoxale présence auprès des humiliés, des blessés, des abandonnés, dans les lieux de souffrance, d'exclusion et de mort, mais là où il fera jaillir une force de vie qui relève et remet en route. Dieu est caché, caché en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul se dit « en chemin et pas encore arrivé ». Et c'est ainsi que les disciples sont en chemin et pas encore arrivés, en quête, sans avoir atteint le but, Questionnons sans détenir de réponse parfaite, ni de belle et globale et totale solution à toutes les interrogations. Et je voudrais terminer avec deux derniers mots, un d'Ésaïe et un de Paul. La foi est foi au Dieu sauveur. Sauveur, écrit Ésaïe. Elle est foi en Dieu. Elle n'est pas foi en les mots ou dans les formules qui permettent de dire quelque chose de Dieu. Et même les mots d'Ésaïe, finalement. C'est Dieu. C'est Dieu qui sauve. Et ce n'est pas la qualité des paroles que je peux dire au sujet de Dieu. La foi est foi en Dieu qui est au-delà des mots, caché non dans un catéchisme ni dans une confession de foi, mais seulement en Jésus-Christ. Et cela, Paul le dit d'une autre manière. Quand il aspire à être trouvé en Christ, n'ayant pas ma justice à partir de la loi, mais à partir de la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Ce qu'on appelle la justification. La justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. C'est une autre manière de dire le salut. Et cela correspond bien à cette conviction que ce n'est pas sur ce que je suis, ni sur ce que je dis, ni sur ce que je fais, que repose ma raison d'être et la solidité de mon existence, ni même sur le fait que je puisse avoir tort ou raison. Ma raison d'être repose sur Dieu seulement, qui me fait grâce et qui acquiesce à ma vie sans condition. Ma raison d'être ne tient pas à moi, elle tient à Dieu. Et rien ne peut l'y détruire, ni même l'abîmer. Ainsi, il peut toujours y avoir des questions sans réponse et des énigmes. Il peut bien y avoir différentes manières de dire et de vivre la foi et d'être disciple. Il peut bien y avoir des expériences tellement diverses et une opinion commune ou majoritaire. Il peut bien y avoir des doutes, des contradictions, des mises en question. S'élancer vers le Christ, avancer sur le chemin, c'est toujours aller vers le frère ou la sœur affligé, malade, affamé, sans abri, sans ami. Aller sans crainte, avec le courage, la persévérance et le réconfort de la foi, de l'espérance et de l'amour. Amen.